Ce matin, je voulais vous entretenir d'un sujet qui va vous paraître peut-être banal, voire même, vous allez vous dire, mais pourquoi il nous parle de ça ? La conversion. Je suppose que ceux qui sont ici dans cette salle ont déjà fait cette démarche de conversion. Alors j'écoutais les annonces, parce que j'écoute, même si ce n'est pas mon église, les annonces. Et il y a certains qui, peut-être, n'ont pas encore fait la démarche du baptême, parce qu'ils se demandent justement s'ils sont convertis ou s'ils ne sont pas convertis. Vous savez, des fois, quand on est jeune converti, justement, on se pose des questions de type métaphysique. C'est vraiment le mot là qu'il faut utiliser, c'est-à-dire qui avoisine le ciel. Et on se demande, je suis sauvé, je ne suis pas sauvé, est-ce que le Seigneur peut me bénir, est-ce qu'il peut m'exaucer, quand je prie, est-ce qu'il entend ma prière, est-ce qu'il n'entend pas ma prière, que des questions comme ça. Et puis, avec le temps, on apprend. Bien sûr, les choses, on commence à connaître bien notre Seigneur, on commence à bien connaître sa voix, et puis se pose la question justement de transmettre ce que nous avons reçu. Alors pour les uns, ce matin, ça sera un message de confirmation de leur conversion, et puis pour d'autres, ça sera un message d'enseignement pour comment transmettre les bonnes informations pour se convertir. Peut-être que vous allez vous dire, mais c'est basique ce qu'il va nous dire ce matin. Oui, alléluia, gloire à Dieu. Parfois, on a besoin de revenir aux choses basiques, vraiment à la base de la parole. Alors, vous voulez un exemple ? C'est dans Actes, au chapitre 2, verset 37. Actes 2, verset 37. Je prends de l'espace, hein, excusez-moi, mais voilà, je bouge. Il paraît qu'il faut qu'on fasse 2000 pas, je crois, par jour, je ne sais plus combien. Enfin, bon, voilà. Vous y êtes ? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, le mot est fort, hein, et les exhorter, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Je crois que vous n'avez pas assez prié pour moi, parce que j'ai jamais vu une prédication qui amène 3000 âmes. Oui, même en France, là, même les meilleurs prédicateurs que je connais, quand ils ont une ou deux conversions, sont contents. 3000. Waouh. Pourquoi autant de personnes sont arrivées à la conversion en une seule prédication ? Le réflexe du chrétien averti et converti depuis longtemps, c'est de dire parce que le Saint-Esprit avait travaillé les cœurs. Amen, mon frère, ma sœur, si tu penses ça, tu as raison. Mais peut-être aussi faudrait-il chercher dans d'autres petits recoins, en fait, si vous voulez, pour être complet dans ce que nous allons dire ce matin. Allez, rien ne vaut une bonne définition. Le mot traduit par conversion, vous êtes prêts ? C'est du grec. Je suis sûr que vous êtes des hellénistes au top. Épistréphos. Alors vous allez me dire, ça a donné quoi en français ? Épitaphe, épigramme, voilà, le préfixe, on le connaît. Ça a donné des petites choses en français. Mais le mot stréfo, ça a donné strophe en français. Ah tiens, ça y est, ça donne un petit quelque chose quand même, on voit un petit peu ce que ça va donner. Donc épi, c'est sur, au-dessus d'eux. Et stréfo, ça veut dire changement, demi-tour. Alors bon, je vous accorde que strophe en français, ça n'a pas été la traduction exacte, hein, vous voyez ? Parce que les mots évoluent dans le temps, et puis au fur et à mesure, ils changent de consistance dans la traduction. Bon, c'est pas grave. Nous, ce qu'on va retenir ce matin, c'est que c'est d'abord se retourner, se convertir, retourner, s'en retourner, ramener, revenir, passer, conversion, se détourner. Voyez, le mot est riche, hein. Il y a plein de mots français qui peuvent venir traduire ce mot qui, dans la parole de Dieu, a été traduit par un seul mot, le mot conversion. Convertissez-vous. Et voilà. La notion de conversion, en fait, elle a deux directions. dans notre compréhension des choses. Faire demi-tour, par exemple au ski, quand vous faites une conversion, vous avez déjà fait une conversion au ski. Voilà, la pente est là, vous avez vos deux skis qui vont par là, et vous voulez aller par là, d'accord ? Vous faites ce qu'on appelle une conversion, vous prenez votre grand ski, voilà. Alors si vous n'y arrivez pas comme moi, ben, vous ne pouvez pas. Mais normalement, vous devez avoir les pieds ouverts à 180 degrés, et vous ramenez l'autre ski, et vous avez fait une conversion. C'est-à-dire que vous avez fait un demi-tour. Spirituellement parlant, on voit ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'avant, on allait dans une certaine direction, mais que maintenant qu'on a rencontré Jésus-Christ, on va dans une autre direction. Encore faut-il déterminer cette direction. Le problème, c'est qu'il y en a qui restent un ski comme ça et un ski comme ça. Et là, vous voyez que l'équilibre n'est pas bon. Et si la pente est par là, il y a un moment donné où non seulement vous allez tomber, mais en plus vous risquez de vous faire mal. Quelqu'un qui marche un ski dans le monde, excusez-moi de le lire comme ça, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Quelqu'un qui marche un ski dans le monde et un ski dans l'église, il y a un moment donné, il va se faire mal. Il va se faire mal. Mais vous savez, malheureusement, et là je parle à des chrétiens convertis peut-être depuis longtemps, nous sommes parfois, même avec le temps, en train de revenir doucettement, alors que nous étions bien partis avec le Seigneur, à voir le ski qui revient vers le monde. Vous qui aviez si bien commencé par l'Esprit, hein, ça c'est dans l'Épître aux Galates. Paul se plaint que les Galates, ils avaient bien commencé, mais qu'ils étaient en train de mal finir, de mal tourner. Deuxième acceptation de la notion de conversion, c'est changer quelque chose en autre chose. Dans le sens de donner un moyen de savoir si l'on est converti ou bien de savoir comment distinguer quelqu'un de converti. Alors, je m'explique. Quand on convertit le plomb en or, ça c'est, vous savez, hein, y avait des gens qui se prétendaient alchimistes, voilà, et qui changeaient le plomb en or. Ils faisaient une conversion. Ok ? Il y a des exemples hein, de conversion. Une plaque photovoltaïque. Vous savez ce que c'est ? Ce qu'on met sur les toits, hein, avec le soleil. Le soleil tape sur la plaque photovoltaïque et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle convertit les photons en électricité. C'est une conversion, c'est-à-dire il y a un changement de nature. Mais quand nous nous convertissons, est-ce qu'il n'y a pas justement un changement de nature ? Nous étions perdus, nous étions des enfants de rébellion avant. Et Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, c'est ce que vous étiez avant, mais vous êtes convertis et vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ça change tout hein, d'être se convertir. Le problème, c'est quand on est à moitié converti, à moitié transformé. Dans la nature, ça ne peut pas exister, à la fois plomb, à la fois or. Il faut choisir son camp, camarade. Parce que si je crois que le Seigneur me regarde en disant « Oh, je bénis ton plomb, je ne le regarde pas, je l'oublie, et je ne vois que ton or », ben vous vous trompez sur la nature de Dieu. Parce que Dieu ne supporte pas cela. Ne supporte pas les à moitié. Hein, vous voulez un exemple biblique ? Ben regardez ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Si seulement tu pouvais être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, entre les deux quoi, je te vomirais de ma bouche. Dieu n'aime pas les moitié-moitié. Hein. Vous savez, j'ai été responsable d'ado pendant de très longues années. À chaque fois, j'avais un peu les mêmes questions, les mêmes... Oui, mais si je viens à l'église... Alors, vous voyez, les mots sont très importants quand on vous dit ça. Si je viens à l'église. Donc, vous voyez, là, on n'est pas dans la conversion, on est dans quelqu'un qui veut devenir adepte d'une certaine manière de vivre. Et il vous dit, ah oui, mais si je viens à l'église, je vais perdre mes amis, je vais perdre... en clair, ce qu'il est en train de vous dire, et combien de fois j'étais obligé de réagir par rapport à ce type de phrase, il est en train de vous dire, en fait... Je ne veux pas laisser ce qu'il y a dans le monde, ça me plaît trop. Et dans l'Église, je ne sais pas ce que je vais acquérir en fait. Donc, la peur, quelque part, de quelque chose que je ne saisis pas, je ne comprends pas, je ne vois pas. Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, on les espère, hein, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand on dit c'est par la foi que... Grâce à la foi que nous sommes sauvés, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est parce que justement on se lance dans une carrière dont on ne sait pas les tenants, les aboutissants. On sait qu'une chose, c'est où on va. c'est tout. Mais le parcours, entre-temps, on ne sait pas. Alors moi, j'aimais bien dire à ces ados, écoute, tu sais, si tu perds des gens que tu appelles des amis parce que tu te convertis et ils ne t'aiment plus à cause de ça, bah, pose-toi la question, est-ce que c'était vraiment des amis ? Parce qu'un ami, ça te respecte et ça respecte tes choix. Oui, c'était peut-être une connaissance, voire un copain, à la limite. Mais à la première anicroche, tu vas voir que ce n'était pas vraiment un ami. Un ami, ça reste fidèle dans le temps. Hein, on a des chants comme ça hein, qui vous reviennent peut-être à l'esprit. Quel ami fidèle et tendre, par exemple. Voilà. Alors, la conversion chrétienne, on va rentrer dans le détail. Pour ceux qui se posent peut-être encore la question, pour les autres, retenez les principes. Pour vous discerner si la personne à qui vous parlez en face, elle est vraiment convertie. Parce que vous avez des gens qui vont vous dire, mais moi je suis chrétien. Je suis chrétien. Oui, tu es chrétien, mais est-ce que vraiment tu es converti? That is the question. Et pour y répondre, ben, il y a des critères de réponse. Alors, la conversion se base déjà sur une première chose, c'est l'entente de la parole. Et l'acceptation que c'est la parole de Dieu. Vous savez, ma maman est catholique, et plus je m'avançais, moi, dans ma conversion, justement, et plus je faisais des pas dans la conversion, et plus mes parents s'investissaient dans l'Église catholique, au point que ma mère, maintenant, elle est secrétaire du curé. Bon, ok, d'accord. Mais après, moi, je discute avec elle. Je lui dis, mais tu peux pas me dire que tu crois ça, alors que c'est pas dans la parole de Dieu. Et c'est là où on voit tout de suite le problème. C'est que dans les religions, et je ne vais pas tirer sur le catholicisme, hein. D'ailleurs, il faut toujours faire une différence entre le catholicisme et le catholique. Le catholique, c'est quelqu'un qu'on doit aimer comme notre prochain, comme le musulman, comme le bouddhiste, comme n'importe qui. Mais par contre, on doit dénoncer, et parler de la vérité tout à l'heure, on doit dénoncer en vérité le péché. D'accord ? Quand vous parlez à quelqu'un qui a cette religion, qui est proche quand même de nous, parce que la plupart d'entre vous viennent du catholicisme. Vous avez été baptisé enfant, vous avez peut-être même fait votre catéchisme, et on ne vous a pas demandé votre avis. Hein ? Bon. Et puis ensuite, vous avez fait une démarche de conversion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez dit « Oh, mais la religion, ce n'est pas ça qui sauve. » Alors ok, d'accord, mais qu'est-ce qui sauve ? Alors je dis... La conversion, elle se base sur l'entente de la parole et donc l'acceptation de cette parole comme étant la parole de Dieu. Et moi, je dis souvent, je l'ai dit à ma mère, mais je l'ai dit à d'autres catholiques quand on les rencontre dans la rue, quand voilà, je leur dis, mais attendez, vous me dites que vous croyez que la Bible est la parole de Dieu. Alors comment ça se fait que quand Dieu vous dit quelque chose, vous dites, ah, mais Saint Thomas, Saint Frusquin, Saint Glinglin, ils existent, hein, Saint Frusquin et Saint Glinglin au passage. Enfin, ils ont existé. Ces gens-là prennent le pas dans ce qu'ils disent sur la parole de Dieu. Si c'est Dieu, Dieu est plus grand qu'eux. Donc s'ils disent le contraire de ce que dit la parole, vous ne pouvez pas le recevoir. Dieu est plus grand. Ça paraît tellement logique. Matthieu 13, 15 me dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Jésus, vous voyez, il ne mâchait pas ses mots. Il leur disait, mais là, vous croyez que vous écoutez, vous croyez que vous voyez, mais en fait, vous êtes aveugles et sourds. Jésus n'a jamais fait des adeptes. D'accord ? Il a fait des enfants de Dieu. Et pour faire un enfant de Dieu, il faut l'établir sur la vérité. Et la vérité, c'est la parole. Ta parole est la vérité, nous dit Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Donc, notre critère, c'est la parole. Ok ? Bon. Matthieu 18, 3 me dit... Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc Jésus apporte une petite précision justement au fait de la conversion et de la parole. C'est que quelque part, il y a une manière d'écouter et de recevoir la parole. Je reçois la parole comme un enfant, mais j'écoute comme un adulte. Les Béréens, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Paul ? Ils ont pris leur Bible, tu nous dis ça, et l'Ancien Testament, sans chapitre et sans verset, hein. Je m'excuserai du peu, à l'époque ça n'existait pas. Mais les Béréens, eux, ils prenaient leur texte, alors ils faisaient pas tcha-tcha-tcha-tcha, ils faisaient tcha-tcha-tcha-tcha, parce qu'ils déroulaient les rouleaux, et ils allaient vérifier que ce qui était écrit correspondait à ce que Paul disait. Parce qu'à l'époque, comme il n'y avait pas de chapitre et il n'y avait pas de verset, regardez Jésus comme il disait, il est écrit quelque part. Si je vous dis, il est écrit quelque part, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous allez me dire, c'est beau ce que vous dites, hein. Waouh, c'est où ? Alors moi aujourd'hui j'ai la facilité parce que ma Bible, elle a des chapitres, elle a des versets, Éphésiens. Aïe, 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 vous ne le savez pas ça ? C'est le verset à retenir ça pour la conversion. Éphésiens 2, 8, 9. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Ça, il faut bien le dire. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. OK ? Ah, il me l'avait mis là, pour au cas où j'ai oublié. Ouais, des fois, on oublie un petit passage, un petit morceau qui est très important. C'est le don de Dieu. Et quelque part, cette conversion, elle doit après se baser sur un plus. C'est par grâce que vous êtes sauvés, d'accord, ok, c'est un cadeau, mais par le moyen de la foi. Alors parlons de la foi. La conversion, elle se base sur l'expression de la foi dans le cœur et dans les actes. Jacques dit, tu as la foi. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est un début, mais ce n'est pas la fin. Moi, je vais te montrer ma foi avec mes actes. Parce que la foi débouche forcément sur des actes. Éphésiens nous dit au verset 10, et c'est important de lire après avoir lu, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, etc. D'accord ? De lire après ce que dit le verset 10, car nous sommes son ouvrage et nous avons quoi ? Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez. Alors, non seulement vous avez la parole, mais en plus vous avez des œuvres que Dieu met devant vous afin que vous les pratiquiez. Donc l'erreur, c'est de ne pas pratiquer ce que Dieu vous demande de faire. Parce que les œuvres, elles sont là d'avance. « Ouah, t'as vu, j'ai parlé à cet homme-là, il s'est converti. » Oh, Dieu a préparé d'avance l'œuvre, donc humilité. C'est pas toi. Toi, tu n'as été qu'un instrument entre les mains de Dieu. Est-ce que le tuyau va dire à l'eau « Heureusement que j'étais là ». L'eau, vous savez, elle trouve toujours son chemin, comme l'esprit. Elle n'a pas besoin du tuyau. Vous le savez. Quand vous avez une inondation, vous savez que l'eau, elle s'infiltre partout. Elle n'a pas besoin du tuyau. Mais après, Dieu veut passer par le tuyau que vous êtes, parce que ça sera plus précis, ça sera plus intense, et surtout, ça ira jusqu'au but. Ça arrivera là où ça doit arriver. Le doigt de Dieu sur le cœur de la personne. La conversion, elle se base aussi sur un engagement indéfectible. Un engagement indéfectible. Je le répète, un engagement indéfectible. Malheureusement, nous sommes dans un monde où on est devant le maire et on dit « Oui, je veux me marier avec elle, c'est la plus belle des femmes, je l'aime, alléluia !» Et puis, 6 mois après, c'est la pire des femmes qui ait jamais existé sur la terre. Je me sépare. Non, non. Avec Dieu, excusez-moi de le dire comme ça, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ne t'amuse pas à fonctionner comme ça avec Dieu. Si Dieu te dit des choses qui ne te plaisent pas, ben pose-toi la question pourquoi il te les dit. Parce que lui, il est parfait, pas toi. Bon, je veux bien que dans un couple, le mari ou la femme ne sont pas parfaites, ni parfaits. Donc forcément, il y a des moments où il faut, comme on dit chez moi, il y a moyen de moyenner. Voilà. Il y a un moment donné où il faut faire des compromis par rapport justement au caractère, par rapport à la manière de fonctionner, par rapport, etc. Ok. Mais sincèrement, je vais vous dire, en tant que pasteur, des fois, on voit des couples qui vous disent, je divorce. Mais pourquoi tu divorces ? Parce que il met pas ses chaussettes dans la panière à linge. Oh, waouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Devant monsieur le maire, tu l'as même peut-être répété devant le pasteur. Seigneur, c'est pour la vie. Ce qui est dit, hein. Dieu l'a entendu et Dieu l'a entériné. Alors, on fait quoi? Bon, mon but n'est pas de parler du couple ce matin. Et vous avez peut-être des circonstances où vous allez dire, bah oui, mais il y a des moments où malheureusement, on ne peut pas rester ensemble. Et j'ai connu, et vous savez, des fois en tant que pasteur, dans le bureau, on reçoit des gens qui vous expliquent que c'est plus possible. Hein, quand vous avez une femme qui vient avec des bleus comme ça, et que, parce que le mari la tape, et vous dites, bon, il est chrétien celui-là? Ah, tiens. C'est marrant, j'ai pas lu dans ma Bible que frappe ta femme et elle te remerciera. C'est pas écrit, hein, ça. Voilà. Remarquez, des fois maintenant, c'est les maris qui sont frappés par leur femme. J'ai rencontré ça aussi dans le bureau. Mais c'est pas écrit non plus, ça. Hein. Femme tape ton mari parce qu'il met pas ses chaussettes dans la panière. Non, ça c'est pas écrit non plus. Je le dis avec un peu d'humour, mais c'est tellement dramatique ce que je suis en train de vous dire. Comme disait un pasteur que je connaissais bien, il disait, vous rigolez, mais vous devriez pleurer. Ben, c'est vrai que ça fait pleurer ce genre de situation. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour parler du couple, je suis là pour parler de la conversion. Mais quelque part, si dans ton couple, ça ne va pas, bah, il faut peut-être se poser la question de savoir s'il n'y a pas un problème spirituel. Et à la base, de continuité dans la conversion. Pas de conversion, mais de continuité dans la conversion. Bon, je m'arrêterai là parce qu'après, chaque cas est particulier. Hébreux 10, 39 me dit ceci, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà. » La foi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Alors l'espérance, c'est pas ce qui est présent, c'est ce qui est à venir. Et les choses que je vois pas, c'est dans le présent que ça se fait, mais j'y ai pas accès. Parce que nous sommes qualifiés, nous, par la vue. Nous voyons. Et vous savez que souvent, c'est un problème, c'est que Dieu ne regarde pas l'apparence, c'est-à-dire il ne regarde pas à ce que nos yeux disent, mais il regarde à l'intérieur, dans l'âme, parce que ses yeux, lui, comme il est esprit, vont chercher ce qui est spirituel. Mais nous nous attachons beaucoup à l'apparence. Énormément même. Trop peut-être. C'est difficile, vous savez, de ne pas se fier à l'apparence d'emblée. Un exemple. Vous êtes là, à l'église, vous voyez un frère, une sœur qui arrive et vous le voyez arriver comme ça. Vous dites, il va pas bien. Mais qu'est-ce que vous en savez? Tant que vous ne lui avez pas demandé, vous ne pouvez pas savoir. Je ne sais pas, peut-être qu'il a juste une douleur dans la hanche ou je ne sais pas, et qu'il le fait grimacer. Mais nous, on va à la conclusion sans aller rechercher le fond de la chose. Ça, c'est ce qui nous caractérise. Et il faut faire un effort. Alors, je vous accorde que parfois, on tombe sur des disciples de Jésus-Christ, et j'insiste bien sur le terme disciples de Jésus-Christ, qui ne vont pas bien, pour des raisons X ou Y. Et que faisons-nous? Je n'ai pas envie qu'il me parle de ses problèmes, parce que déjà, moi, j'ai les miens. Donc... Mais peut-être que juste la personne a envie que vous lui disiez, je vois bien que ça ne va pas. Est-ce que tu veux qu'on en discute? Tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux venir à la maison? Est-ce que tu veux... Voilà. Juste des fois, une parole. Alors, je ne vais pas jouer les donneurs de leçons. Hein. Ce n'est pas parce que je suis sur les strates que je suis meilleur que vous. Hein. C'est à ce sujet-là, on se trompe parfois. On se trompe et on n'agit pas au bon moment. Le problème, si vous voulez, c'est quand en face, vous avez quelqu'un qui se dit chrétien, et on ne va pas préjuger de sa conversion, mais qui est charnel. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des chrétiens charnels. Ça existe, le chrétien charnel. Alors, comment définir ça? Paul vous le dit dans 1 Corinthiens 3. Ce sont généralement des personnes, frères, sœurs, puisqu'il les appelle frères, sœurs, hein, Paul, qui sont légers dans leur connaissance de la parole, qui sont légers dans leur vie, qui ont des problèmes, si vous voulez, de type charnel, la chair qui prend le dessus sur l'esprit. Et on sait tous que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, ok ? Donc forcément, quand on est en phase 2, si nous, nous sommes, allez, on va pas se vanter, mais si nous sommes un peu plus spirituels, parce que nous avons réglé certains problèmes charnels, eh bien nous allons avoir un a priori négatif. Et on est tous pareils, hein, là, à ce sujet-là. Et quelque part, on a vite fait de jeter l'anathème sur le charnel. Alors, de toute façon, lui, c'est un chrétien charnel. Alors, et hop, on l'écarte. Bah, c'est-à-dire que, oui, mais il est écrit aussi dans nos Bibles, supportez-vous les uns les autres. Bon, alors, je fais comment ? Je fais comment ? C'est compliqué, vous savez, de se dire comment faire. Ah là là, on va aller... Oui, j'ai pas l'habitude de ce format-là de prédication, moi. C'est ou 15 minutes ou 45, mais j'ai pas l'entre-deux, moi. Je voudrais aller par rapport à ça. Ce qui fait de nous, quelque part, un chrétien dont la conversion est un peu entre deux eaux, appelons ça un chrétien charnel, il y a trois critères, la séduction, la mondanité et les soucis. Et là-dessus, je peux être converti, mais perdre la force de cette conversion avec le temps. Et je voulais faire ce passage ensemble, parce que quelque part, c'est ce qui nous concerne tous, parce que celui qui est debout prenne garde de ne pas chuter. Donc je ne peux pas jeter l'anathème, parce qu'aujourd'hui, c'est lui ou elle qui est charnel, mais demain, c'est peut-être moi. Si ton frère a péché, va y reprendre-le entre lui et toi. Mais moi, je te conseille un truc, hein, c'est de le faire avec amour. Parce que le jour où ça va t'arriver, si tu l'as fait durement, tu seras traité durement. La séduction, Matthieu 24, 3, 5, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Écoutez bien. Donc c'est Jésus qui dit, voilà les signes de la fin du monde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « c'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. En ce moment, je ne sais pas vous, hein, mais sur Internet, hein, il y a à boire et à manger. Alors je ne sais pas quel est le plus négatif, le boire ou le manger dans cette affaire. Il y a des bonnes choses, puis alors il y en a tellement de mauvaises. Et puis alors, je ne sais pas, ce Covid nous a mis la tête à l'envers. Alors on voit des gens qui vous disent « ah oui, mais un tel a dit ». Mais moi je m'en fiche qu'un tel ait dit. Ce n'est pas un tel qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que Jésus me dit. Je prends ma Bible, je suis comme le Béréen, je vérifie. Attention, rester disciple de Jésus, c'est aussi ne pas se laisser séduire parce que le témoignage devient brouillé. Romains 16, versets 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes, voire femmes, ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par ces paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples. Attention au miel et au sucre. C'est pas la farine et l'huile. La mondanité, puisqu'il me reste quelques minutes. De Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On a signé là, on le voit, hein. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, aimant leur télé plus que Dieu, aimant les plaisirs de la chair ou autre plus que Dieu, bon, ayant l'apparence de la piété. Vous savez, c'est pas parce que j'ai un air inspiré que je suis inspiré. L'inspiration, ça se vérifie dans les faits. Il y a un frère, alors je vous dis juste, un frère, il m'a appelé hier au soir, il m'a dit, vous savez, frère, il y a eu un don spirituel, puis il me regarde, enfin, il est au téléphone, mais il me regarde, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il me regardait droit dans les yeux quand il a fait ça. Il m'a dit, d'ailleurs, je crois que c'est vous qui l'avez apporté. Mais vous savez, si je suis charnel, je me vexe, je me dis « Oh, c'est moi qui t'ai apporté le don spirituel, oh, alors c'est moi qui t'ai inspiré ce jour-là. » Non, je lui dis « Mais attends, on s'en fiche de qui l'a apporté. Est-ce qu'il t'a parlé ?» Ben oui, parce que c'est exactement ce que j'étais en train de vivre. Ah, ben voilà. Qui l'a apporté ? C'est pas important, ça. Alors, reniant, je lis bien, reniant ce qui en fait la force de la foi, éloigne-toi de ces hommes-là, ou de ces femmes-là. Il y a des gens, faut savoir s'écarter. Ils sont toxiques pour votre foi. Toxiques. Notre travail ne consiste pas à faire des adeptes de l'Église, mais des disciples de Jésus-Christ. Donc, il faut trouver des moyens de passer au-delà de ces comportements, bien sûr, et montrer une réelle différence de comportement dans l'Église. Si l'Église ne se démarque pas du monde, alors... Parce que le monde, je vous garantis, il fait des choses mieux que nous. Hein. Donc, si nous, on ne se démarque pas par notre foi et notre manière d'être, dernière chose, les soucis. Alors, vous connaissez tous ce texte de Matthieu 13, versets 22-23. « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Hein, pas seulement l'entend, mais la comprend. C'est-à-dire la comprend, ça veut dire quoi? Ça veut dire la met en pratique aussi. Parce que comprendre, c'est dire, oh, Jésus dit ça, donc je sais maintenant comment je dois agir. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Je conclurai avec cette phrase en disant, nous sommes appelés à préparer la terre. Là, nous, tous autant que nous sommes là, convertis depuis de longues années peut-être. Nous sommes appelés à préparer la terre. Le cœur de la personne qui est en face, c'est un terrain qui est peut-être plein de pierres, plein de ronces, plein de mauvaises choses de ce monde, de mauvaises pensées, de mauvaises habitudes, de mauvais comportements, de mauvaises manières de penser. Je dis souvent aux chrétiens de Vitrolles, vous savez, s'il y a une prostituée qui rentre dans l'église parce qu'il y a un chant qui l'a frappée comme ça, mais elle va être habillée comme une prostituée, elle va avoir un langage de prostituée, un comportement de prostituée. Ne demandez pas qu'elle se convertisse en passant le pas de la porte. Votre pas de porte, ce n'est pas Jésus qui transforme en 20 ans ce que vous avez demandé peut-être en 30 ans. Enfin, en 20 secondes, ce qu'il vous a demandé peut-être 30 ans, vous. Donc, il faut savoir aussi comprendre que c'est beau déjà qu'elle rentre. C'est beau déjà qu'elle rentre. C'est beau qu'elle soit touchée par un chant. C'est peut-être que déjà dans son cœur, il y a quelque chose qui se passe. Le problème, c'est pas de lui dire « Écoute, assieds-toi, écoute les chants. » Vous ne l'amènerez pas à la conversion en disant ces choses-là. C'est de lui dire « Écoute, maintenant que tu es rentré, c'est bien, tu as fait le premier pas. Mais il y a d'autres pas à faire derrière. Il y en a d'autres. Je milite de plus en plus pour que quand des gens arrivent dans l'église, on leur donne un parrain. Alors attention, je suis pas devenu catholique dans cette affaire. C'est pas le parrain du baptême, ce que je suis en train de vous dire. Non, c'est un frère, une sœur, solide dans la foi, qui est capable de prendre sous son aile une personne qui arrive et qui sait pas. C'est pas nos codes. Des fois, on prêche, même nous, on a un patois de Canaan, la personne ne sait pas ce qu'on dit, elle comprend rien de ce qu'on dit. Faut traduire. Faut que tu donnes ton cœur à Jésus et tu verras, tu passeras de ton Égypte à ton Canaan. Qu'est-ce qu'il dit, le gars, là? Il parle bien, mais j'ai rien compris à ce qu'il dit. Pourtant, c'est du français, hein, mais voilà. Nous sommes pas... Comment je vais dire ça? Nous ne sommes pas des gourous. Le mot, je l'utilise volontiers. Dans le mauvais sens, vous savez, le gourou, c'est celui qui a une emprise sur le cœur pour l'emmener là où il veut. Non, nous ne sommes pas des gourous. Nous sommes juste... de ceux qui transforment les cœurs, enfin, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, hein, parce que ce n'est pas nous qui transformons le cœur, mais nous sommes utilisés par Dieu pour transformer le cœur, afin que la personne qui m'écoute, elle se dise, c'est vrai, je n'avais pas compris ça. Alors, on doit préparer la terre, on doit enlever les cailloux, enlever les ronces. Tu as un problème, tu as un souci, je prie pour toi. Tu vas, ça, tu ne comprends pas, mais moi, je vais t'expliquer comment t'en débarrasser, etc., etc. Bon. On prépare la terre. Nous sommes appelés à préparer la terre dans laquelle la parole sera semée. Mais ni la semence, ni la croissance de la semence ne nous appartiennent. Et je rajouterai même, ni la terre. Alors vous pourriez dire, mais alors je sers à quoi? Tu es un bon tuteur. Ou une bonne tutrice. Et tu es là comme le jardinier qui fait pousser ses tomates et qui sait qu'à un moment donné, il faut pincer la tomate. Vous savez ce que ça veut dire, pincer la tomate ? À la sixième fleur. Moi, j'ai appris ça hein, quand j'ai planté des tomates. J'ai même pas mis de tuteur. C'était des rampants. Alors, il y a un brave monsieur, un voisin qui arrive et qui me dit, alors c'est dans les Deux-Sèvres, au bois d'âme, on n'est pas comme ça qu'on pousse. Hein. On n'est pas des rampants, on est des grimpants. Je dis, oui, et alors ? Bah, faut mettre un tuteur. Hein. Sinon, on va randonner. Hein. Oh, ben, j'ai dit, ça donnera ce que ça donnera. Une tomate, 20 pieds. Bon. La fois d'après, j'ai mis des tuteurs. Il est venu, il m'a dit, madame, on n'est pas à la bonne date. On donne un run. Parce que vos tomates vont arriver, mois de novembre. Va faire froid là-bas, il fait froid au mois de novembre. Va geler. On n'aura pas de tomates. Ah, bon. La troisième année, mais on est trop tôt, les saintes glaces ne sont pas passées. On va geler. Voilà. Eh bien, tout ce que je suis en train de vous dire, ça c'est une métaphore agraire. Eh bien, le chrétien, il doit savoir quand est-ce qu'à la sixième fleur, on pince, c'est-à-dire on coupe le haut du tomatier pour que les tomates d'en bas se développent, mais que ça ne continue pas à faire des fleurs, et que ça arrive au mois de décembre. Au mois de décembre, ça ne donnera plus rien. Enfin, en tout cas, dans les Deux-Sèvres. Ici, des fois, il y a un peu plus, mais... Voilà. Alors, vous pincez, c'est-à-dire vous coupez le haut, la tête. Voilà. Et puis, de temps en temps, il faut savoir aussi enlever certaines fleurs, parce qu'elles sont trop proches, tout ça, et ça ne donnera pas des belles tomates. Mais ça, c'est pareil. Nous, de temps en temps, il faut dire à certains, quitte cette personne. C'est une mauvaise chose. 5 minutes, c'est la grâce. D'autres fois, il faudra dire, mais arrête de te comporter comme ça. C'est pas bon. Et puis d'autres fois, il faudra aussi arracher les mauvaises herbes. C'est-à-dire que de temps en temps, enlever les pierres. Parce que l'eau passe pas, la parole passe pas. Donc il faut savoir dire à la personne, écoute, tu sais, arrête avec tes histoires de bouddhisme. Arrête avec tes histoires d'islam. Arrête avec tes histoires de magie. C'est mauvais, ça c'est de la pierre, c'est des ronces, ça va te tuer. Enlève ça. Alors des fois on est mal vu quand on dit ça. Enlève les statues, les machins, les trucs. Mais t'es qui toi pour me dire ça ? Non, alors, il y a manière et manière de le dire, évidemment. Je peux être brutal et tout arracher, même le pied. Puis je peux être doux. Et dire, si tu as envie de vivre, tu sais, faut pas faire comme ça. C'est de l'expérience, je te le dis. Je reste sur cette bonne parole. Il y a des bonnes terres quand même. Hein. Il y a des terres qui sont... Pff, voilà. Alors, quelque part, vous-même... Est-ce que vous vous êtes débarrassé des cailloux et des ronces ? Faites-le d'abord avant de vouloir le faire chez les autres. Et puis ensuite, sachez aussi vous séparer. Sachez aussi vous faire émonder, parce que le Seigneur veut que vous soyez saints et purs. On l'a dit tout à l'heure, il revient bientôt. Amen.